Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Soirée qui va clore notre saison de rencontres bande dessinée. Et je suis très heureux de vous accueillir ce soir en petite salle, ce qui nous permet d'être en direct sur la Web TV, puisque d'habitude nous sommes dans le salon jeux vidéo. Alors pour cette soirée, je suis ravi aussi d'accueillir trois jeunes dessinatrices que vous connaissez peut-être, mais peut-être pas, et qui vous seront présentées en détail bien sûr tout à l'heure. Donc je suis ravi d'accueillir Alix Garin, Lucie Albrecht et Chloé Wary. Alors je dois excuser Sonia Deschamps qui devait animer cette soirée, mais qui est bloquée en Suisse pour des problèmes de train. Mais comme nous ne reculons devant aucune improvisation ici à la BPI, que nous avons les moyens de le faire, et grâce aussi à l'envoi par Sonia Deschamps de son conducteur, cette soirée a quand même été maintenue et je remercie chaleureusement Émilie Fissier qui est la chef du service Nouvelle Génération à la BPI et qui connaît bien effectivement le travail de nos trois dessinatrices et qui va donc animer cette soirée. N'hésitez pas à préparer des questions. Bien sûr, on fera passer un micro tout à l'heure dans la salle. À toi, Émilie. Très bonne soirée.
Merci, Sébastien. Merci à tous et à toutes d'être là. Effectivement, je devrais m'en sortir grâce aux questions de Sonia. Et de toute façon, comme disait Sébastien, je connais quand même un peu beaucoup le travail de nos trois autrices ici présentes, que je remercie d'être avec nous. Donc, Chloé Wary, qui nous fait le plaisir de revenir puisque tu es déjà venue fin 2020 dans le cadre de nos jeudis de la BD pour présenter Saison des Roses. Chloé, alors on va pas échapper plutôt à la traditionnelle présentation de nos autrices. Donc tu es née, tu as grandi en banlieue parisienne, tu es diplômée de l'école et lycée des métiers d'art et du design Auguste Renoir de Paris. Et tu as donc notamment publié aux éditions Steinkiss Conduite interdite en 2017 et Beethoven sur scène en 2020. Et donc Saison des Roses aux éditions FLBLB, dont on va parler un petit peu plus, en 2019, et pour laquelle tu as remporté le prix littéraire des lycéens et apprentis de la région sud, le prix du public du Festival d'Angoulême et le prix Artemisia de l'Épancibation notamment. Ça vaut le coup d'être dit quand même. Merci Chloé. Alix Garin, donc toi tu viens pour la première fois parmi nous et on est super contente de t'avoir. Tu es née en Belgique, tu as fait tes études de BD à l'École supérieure des arts Saint-Luc à Liège. En 2017, tu as remporté le prix Jeune Talent du festival Quai des Bulles à Saint-Malo et en 2021, donc, tu as publié ta première BD Ne m'oublie pas aux éditions Le Lombard, qui donc a remporté aussi de nombreux prix, dont le prix France Culture BD des étudiants 2021 ou encore le prix des libraires BD FNAC Belgique 2021, entre autres. Merci Alix d'être avec nous. Et je termine par Lucie Albrecht, last but not least. Née dans le Grand Est, tu as également fait tes études à l'école et lycée des métiers d'art et du design Auguste Renoir de Paris. Tu as publié ta première BD Bruit de couloir aux éditions Vite Cocagne en 2019 et en 2021, donc tu réitères, cette fois aux éditions Même Pas Mal, avec Sylvain. Merci à toutes les trois d'être avec nous ce soir déjà. Cette soirée, c'est aussi l'occasion pour nous de vous parler de notre futur podcast, de vous annoncer le lancement de notre podcast Le Son BD, dont les premiers épisodes seront en ligne jeudi. Ce podcast, il est issu donc de notre programmation Les Jeudis de la BD, qui se déroule, comme Sébastien vous le disait, normalement dans le salon jeux vidéo de la BPI et qui vraiment ambitionne d'échanger avec des jeunes talents. Et donc, en général, ce sont de jeunes auteurs, souvent de jeunes autrices d'ailleurs, qui ont publié moins de trois albums. Et on parle dans ces rencontres de leur première fois artistique. En général, on propose un atelier. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder notre programmation. Parmi les invités de cette première saison, vous pourrez entendre Loïc Guyon, Manon Debeil, Maria Rostoka, Léa Mouraviec ou encore, tout récemment, Sara Del Giudice. Et voilà, donc le visuel qui est prévu, vous l'aurez peut-être reconnu, visuel qui nous a été fait par Émilie Glison, qui elle aussi est un jeune talent. Merci à toutes les trois d'être avec nous. Je crois que je vais le répéter beaucoup dans cette soirée. Rencontre un petit peu spéciale, comme vous avez pu le voir, puisque plutôt que d'imaginer une table ronde classique, on échangera bien sûr sur les dernières publications et puis les parcours de nos autrices. On a décidé de s'amuser un petit peu, quitte à avoir cette grande salle et cette grande scène, pour vous proposer de dessiner. Donc bien sûr, on va répondre à quelques questions, elles vont s'en poser aussi entre elles et elles vont surtout dessiner à tour de rôle. Voici donc ce qui vous attend pour l'heure à venir. Avec Chloé, nous allons interroger Lucie pendant qu'Alix dessinera. Puis avec Lucie, nous interrogerons Alix pendant que Chloé s'installera à la table à dessin. Et enfin, avec Alix, nous poserons quelques questions pour finir à Chloé pendant que Lucie terminera ce cadavre exquis graphique que vous aurez en direct sur l'écran. Il va beaucoup être question de vos débuts à toutes les trois dans cette rencontre et on prendra un petit peu de temps donc après cette table ronde tournante pour évoquer les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment. Et notamment puisque vous nous avez fait l'amitié de nous apporter quelques images de vos projets en cours, donc on pourra voir à l'écran. On va commencer avec Chloé. On va commencer avec Chloé, par interroger Lucie. et donc Alix, si tu veux bien t'installer à la table à dessin pour commencer ce cadavre exquis. Et bien sûr, pardon, j'ai oublié de mentionner qu'à la fin, vous aurez un temps de questions-réponses avec nos autrices, bien sûr. Alors, Lucie, tu as donc sorti l'année dernière Sylvain, aux éditions Même Pas Mal, on l'a dit. C'est ton deuxième album en sélection officielle à Angoulême, si je ne me trompe pas.
C'est mon deuxième album et c'est le premier en sélection officielle à Angoulême.
Donc je me trompais. Et on va parler surtout de la façon dont naissent les projets, de la façon dont arrivent les histoires. Mais avant ça, parce qu'on aime bien faire des petits suspens, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au dessin en général et à la bande dessinée en particulier ? La question c'est surtout, est-ce que tu fais partie de ces auteurs et autrices qui dessinent depuis toute petite, qui se sont jamais arrêtés de dessiner, ou est-ce que pas du tout ?
Alors ouais, je dessine depuis toute petite, par contre je faisais pas du tout de bande dessinée, j'ai vraiment découvert ce médium-là assez tard, à mes 18-19 ans, enfin je savais que ça existait mais je me suis jamais dit ah, c'est cool, c'est pour moi, et ouais je dessinais beaucoup et mon but c'était de dessiner de manière la plus réaliste possible, donc je copiais énormément de portraits, j'essayais de travailler les ombres, les lumières, je faisais les portraits des acteurs des frères Scott, de toutes mes séries que je regardais à l'époque. Et voilà, je me suis entraînée comme ça. Je suivais un gars qui dessinait très bien, qui avait un skyblog à l'époque, qui faisait des dessins très réalistes avec crayon, marqueur. Enfin voilà, et c'était mon idole.
Ça nous ramène à des années, je n'oserais dire sombres, les skyblogs, qui s'en souvient, toutes les quatre en tout cas, je pense qu'on s'en souvient.
Est-ce qu'on se souvient des mots de passe ?
Oui. Et à quel moment est-ce que tu as réellement eu envie de raconter en bande dessinée ? Enfin, ce médium-là, vraiment, à quel moment tu t'es dit c'est cette forme-là qui est faite pour moi ?
Le déclic, il s'est fait quand j'étais à mon premier stage post-bac. Donc j'étais en BTS, j'avais fait une année de BTS design graphique. Et du coup, j'étais en stage dans la revue Hey Modern Art et Pop Culture, qui fait de l'art brut. Enfin, c'est un magazine en tout cas qui présente des artistes qui font de l'art brut. Et ils ont très bon goût, ces gens-là. Et donc, ils avaient des bandes dessinées dans leur bureau. Et c'est là-bas que j'ai découvert Ludovic de Burme. Et ouais, je crois que c'est vraiment à la lecture de sa BD Lucille où je me suis dit, OK, c'est possible de faire ça, c'est possible de raconter des histoires déjà sans cases carrées, de raconter des histoires de la vraie vie dans des livres qui font plus que 47 pages, quoi. Et je me suis dit, OK, c'est ça que j'ai envie de faire. Et voilà. Et après, j'ai découvert toute la BD... indépendante avec l'association, donc Kilofer, Julie Doucet et Nina Antico aussi, ça m'a beaucoup marqué dans mon travail. Et voilà, après je suis entrée en DMA illustration avec Chloé à Renoir. Et là on a vraiment découvert tout l'univers de la BD, on ramenait chacun nos lectures et tout. Et voilà, c'est là qu'on a vraiment exploré le côté plus indépendant de la bande dessinée.
Chloé, tu n'hésites pas à réagir et à interpeller.
Je suis en train de faire des formules dans ma tête pour
interpeller Lucie, quand tu veux.
En fait, on se connaît bien avec Lucie.
Et oui, je sais, c'est pour ça.
On a vraiment démarré ensemble, quoi. Du coup, je pense que je ne connais pas tous tes secrets. Et je me demandais, est-ce que ce n'est pas aussi la découverte de récits plus intimistes qui a déclenché, toi, peut-être une envie de raconter aussi des choses qui te touchent plus et...
C'est sûr que j'avais beaucoup de... Enfin, j'avais une période très autobiographie où j'ai découvert ça en BD. Et puis, j'ai commencé à lire des romans aussi très tard. Mais j'avais lu Marc Lévy. Toi-même, tu sais.
T'inquiète, moi aussi.
Voilà, c'était première entrée en littérature. Mais c'était des récits de la vraie vie. Et c'est ça qui me touche et qui me donne envie de raconter des histoires, quoi. C'était pas tant... les récits fantastiques ou de grosses aventures, mais plus les choses intimes, les petits secrets des gens et les détails de la vraie vie, quoi.
Moi, je sais que Lucie, elle a plein de petits carnets. Elle fait beaucoup de croquis, elle note ce que les gens disent. Et je me demandais à quel point c'était important pour toi dans ton travail de te nourrir comme ça et de récupérer cette matière du réel, des gens. Si t'as toujours fait ça ou...
Ouais, c'est vrai qu'à l'école, beaucoup. Là, je fais beaucoup moins, je prends plus le temps. Mais c'est vrai que j'avais toujours un carnet sur moi et je dessinais les gens dans notre classe et tout. Et j'écrivais toujours des petits dialogues. C'est vrai que dans tous mes croquis, il y avait une partie texte. Donc c'était le début de la bande dessinée quand même, quoi. Même si c'était pas avec des cases et des vraies bulles. Mais c'est vrai que je rajoute toujours j'essaie de choper le petit moment de la discussion qui est intéressant pour le remettre dans les carnets. Et forcément, ça donne envie de raconter des histoires ou d'imaginer la suite, quoi, de la discussion.
Et alors, du coup, tout à l'heure, tu parlais de l'association de Julie Doucet, notamment. Quels sont les autres, éventuellement, auteurs... Tu as aussi parlé de Marc Lévy. Quels sont les autres auteurs ou autrices qui t'ont marqué, qui t'ont accompagné dans ton parcours? Parce qu'on a parlé du tout début, de ce qui t'avait donné envie, peut-être. Et voilà. Mais tout au long de ton parcours, que ce soit tes études ou pendant ton premier album, est-ce que tu as d'autres auteurs ou autrices comme ça, de bande dessinée ou pas, d'ailleurs, ouais, qui t'ont accompagné, qui accompagnent ton processus artistique ou qui te permettent, je sais pas, d'avoir des influences? Parce qu'au contraire, tu te coupes de tout quand tu dessines.
Moi, je suis très boulimique en termes de culture. C'est-à-dire que quand je fais des recherches sur un sujet, un projet, je vais consommer énormément de choses, que ce soit des films, podcasts, livres, bandes dessinées. Mais je vais faire une espèce d'obsession sur le sujet sur lequel je suis en train de travailler. Et du coup, j'ai pas de grand maître ou de... Voilà, j'ai pas d'influence où c'est vraiment ces personnes-là qui vont marquer toute ma période, mais c'est plus ok, je suis en train de travailler sur tel sujet. Ben, du coup, pour ce projet-là, c'est je sais pas, telle personne qui va m'inspirer pour l'écriture, telle personne qui va m'inspirer pour le cadrage ou la couleur, ou enfin, je fais tout en noir et blanc, mais enfin voilà, pour différents aspects, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu une période pendant qu'on était en DMA, il y avait une espèce de mode, enfin je sais pas si c'était une mode, mais en tout cas il y avait beaucoup d'illustratrices qui faisaient des dessins au crayon de papier, et j'aimais beaucoup ça, je faisais d'ailleurs beaucoup ça. Et c'était notamment des autrices suédoises, donc il y avait Johanna Algren, Amanda Vahamäki et Aisha France aussi, ça m'a beaucoup marqué. Petite Terrienne, sa première BD. C'était une grosse inspi en termes de un peu de tout, parce que c'est vraiment une BD où elle va raconter des tranches de vie de trois femmes, donc une mère et ses deux filles, et on passe vraiment d'un personnage à l'autre, et en fait entre chaque passage à un personnage, il y a des espèces de petites cases qui font introduction de chapitre, et ça je l'ai un peu repris pour cette manière de couper, de passer d'un personnage à l'autre dans ma construction de scénario pour Bruit de couloir, par exemple. Donc je sais que ça, ça a été...
Alors justement, très bonne transition, parce que j'allais parler de Bruit de couloir juste après ton premier album, donc, qui est paru en 2019 aux éditions Vite Cocagne. Comment est-ce que ce projet-là, donc, qui nous plonge dans l'univers de l'internat, comment est-ce qu'il est né, et ce qui nous intéresse aussi, c'est comment il s'est retrouvé dans les mains d'un éditeur?
Oui, et bien... Tout suit son cours, donc Bruit de couloir, c'était un projet d'études que j'ai développé pendant mon année de FCND. Donc j'explique rapidement, en fait on a fait un DMA illustration.
Ouais.
Maintenant, ça a changé de nom, donc c'est plus les mêmes formations. Mais on avait fait un DMA illustration en 2 ans. Donc c'était comme un BTS, mais spécialisé illustration avec Chloé. Et après, toutes les deux, on a choisi de faire la formation complémentaire en bande dessinée. Donc là, c'était 1 an, non diplômant, mais où c'était vraiment des auteurs de BD qui nous faisaient des cours, des workshops. On a eu des workshops hyper intéressants avec des éditeurs aussi. On avait eu Mathias de l'employé du mois et Marion Amurgagnan qui travaillait à l'époque chez Delcourt. Et du coup, on avait vraiment les deux points de vue, grosse maison d'édition, maison indépendante, et on nous apprenait à préparer un dossier éditorial donc pour présenter un projet aux maisons d'édition. Donc, il fallait inventer une histoire, inventer un projet, le développer. Et voilà, Bruit de couloir est né de cet exercice. Et une fois qu'on avait le dossier, ça aurait été bête de ne pas l'envoyer. Quoi. Donc,
c'est vrai.
Donc, voilà. Et je me souviens que vite qu'Oken, j'ai découvert leur travail parce que Loïc Sécheresse nous donnait des cours. Et il vient de Nantes, il les connaît bien et tout, donc il m'avait parlé de cette maison d'édition. Et voilà, ça l'a fait.
Ça s'est fait comme ça, c'était le...
Ouais, c'était envoyé, et puis je crois qu'il a dû envoyer un petit message en mode « Est-ce que tu as lu le projet que tu as envoyé, Lucie ?» Et puis c'était sur la pile à lire, et voilà, j'ai eu une réponse positive. Après, j'ai envoyé à d'autres gens qui ne m'ont jamais répondu, ou qui m'ont répondu négativement aussi, hein. C'est pas... c'était pas comme ça...
C'est un projet qui a beaucoup évolué entre le moment où c'est arrivé en FCND et le moment où c'est sorti, non ?
Ouais. Complètement. Parce que, en fait, à FCND, le projet, moi, je voulais vraiment me concentrer sur l'ambiance de l'internat, donc qui était un endroit un peu à l'image de l'adolescence. Donc, on est entre intimité, promiscuité, où, en fait, on a l'impression d'être grand parce qu'il n'y a pas d'adulte et qu'on a notre propre chambre. Et en même temps, il y a des horaires pour se doucher, pour manger, pour étudier. Tout est hyper carré, tout est hyper... voilà, il y a des sonneries. Enfin, donc il y a un peu ce truc d'entre-deux, où on n'est pas encore trop un adulte et pas encore trop un enfant. Et on se fait l'éducation entre nous, quoi. Et ça m'intéressait beaucoup dans l'ambiance. Je me suis dit que c'était intéressant à développer en BD. Et j'avais écouté comment on appelle ça ? C'est pas une pièce théâtrale, mais un espèce de podcast qui est juste en un épisode, quoi, de Emmanuel Tornero, qui s'est appelé Le Couloir, sur Arte Radio. Je pense que c'est toujours disponible. Et en fait, elle était surveillante en internat, et elle a enregistré donc des sons. Il y a un vrai travail sur le son, sur les bruits de pas, le parquet qui grince, elle met une ambiance un peu... où on se demande si y a un truc d'horreur qui se passe et tout. Et on entend vraiment les discussions entre les filles, les posters où elles mettent des punaises sur les tétons des mecs. Enfin voilà, une petite ambiance sympa, quoi.
Et justement, du coup, l'adolescence, c'est quelque chose donc, qui est dans Bruit de couloir, mais c'est aussi quelque chose qui est dans Sylvain. Est-ce que c'est un thème qui te... j'imagine que c'est un thème qui te tient particulièrement à cœur. Du coup, comment c'est venu cette idée de travailler spécifiquement sur l'adolescence ? Parce que c'est quand même pas facile, même si vous êtes toutes les trois jeunes et c'est pas si loin. Mais à la fois, c'est quand même une époque, quand on grandit, que vite on oublie, j'ai l'impression. Donc comment toi, tu te... replongeait dans cette époque-là, alors pas forcément la tienne, mais dans retranscrire ce que peut être la vie d'un adolescent, d'une adolescente à ce moment-là, et puis pourquoi travailler spécifiquement sur cette période-là de la vie de tes personnages ?
Comme dit, je trouve que c'est une période hyper intéressante où il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent et beaucoup de questionnements, de choix de vie, de qui on est, un peu... tous les thèmes qu'on peut aborder dans n'importe quel roman. Au final, l'adolescence, c'est vraiment là où tu te poses les questions les plus intimes, on va dire. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et en fait, j'ai pas terminé de répondre à ta question sur l'évolution du projet, mais c'est vrai que...
Vas-y.
Non, mais ça se lit. C'est vrai que moi, je voulais juste raconter des histoires de vie au début, dans l'internat, vraiment juste montrer l'adolescence et tout. Et en fait, j'ai eu un retour de mon éditeur qui me disait qu'il manquait un truc, une intrigue ou quelque chose qui rend l'histoire plus vivante. Voilà. Et du coup, j'ai rajouté cette intrigue de harcèlement scolaire, mais qui n'était pas du tout présente au tout début. Et voilà, c'est vrai que...
C'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu es en train de fabriquer une histoire et qu'il faut aussi structurer et qu'il faut chercher des astuces, quoi. Et Et du coup, tu sors du récit, du journal intime un peu, où je raconte une ambiance, je pose une espèce de thème. Là, il faut chercher de l'action, et c'est quelque chose qui est... Il faut aller le chercher, quoi.
Oui, c'est clair. Et la narration, en fait, ça se construit. Et c'est vrai que j'ai souvent, moi, des idées d'ambiance, d'univers, de période, adolescence, en tête, avant d'écrire l'histoire. Et qu'après, ouais, il faut imbriquer des choses pour qu'il y ait une vraie intrigue là-dedans, quoi.
Ouais, poser la narration au-delà de juste l'ambiance, ouais, tu décris très bien. Et Sylvain, donc ta deuxième BD, ça raconte donc l'adolescence, mais ça raconte aussi ou surtout un deuil. Donc c'est bien plus que ça, évidemment, mais le sujet central, c'est quand même pas un sujet facile. Est-ce qu'il t'a fallu du temps avant de te lancer ? Comment est-ce qu'on aborde un sujet aussi sensible, aussi douloureux que le deuil ? Est-ce que c'est justement en se posant pas trop de questions, ou au contraire en faisant un énorme travail de ce qu'on va dire, ce qu'on va pas dire, comment on va le dire ?
Ouais, ça a été très compliqué de savoir où j'allais. Et en même temps, c'était assez simple parce que ce projet est né d'une rencontre. Donc, une amie d'amis qui est psychologue en soins palliatifs, qui avait un projet de faire un petit livret dépliant à distribuer aux enfants en soins palliatifs qui allaient perdre un parent ou qui avaient perdu un parent. Et en expliquant certaines choses et que ce soit un peu plus ludique, on va dire, ou agréable avec des images et certaines images un peu poétiques et tout. Voilà. Et du coup, on avait commencé à échanger pas mal sur ce sujet-là. Et moi, j'avais commencé à réfléchir à des images métaphoriques, poétiques, autour de la maladie, autour du deuil. Et du coup, j'avais commencé à faire quelques images comme ça. Au début, c'était pas du tout une histoire de deuil d'une mère. J'avais imaginé plutôt des histoires, des images avec un petit garçon et sa maman qui avait Parkinson. J'avais fait des choses autour du tremblement. Enfin, j'avais réfléchi autrement. Et donc en fait, cette personne qui est devenue une amie qui s'appelle Chloé Tessier, qui est psychologue du coup, m'a dit « Mais pourquoi tu ne veux pas, tu fais pas les choses que tu maîtrises ou que tu traites déjà, donc l'adolescence, les changements du corps et notamment le corps féminin. Et pourquoi tu parles pas du cancer du sein et pourquoi tu vas chercher des choses compliquées que tu maîtrises pas forcément et tout ?» Donc elle m'a un peu recentrée sur le truc-là. Parce qu'au début, c'était un projet avec elle pour un dépliant. Mais très vite, le temps nous a... on n'a pas eu le temps de développer ce projet-là. Mais je me suis dit que j'allais me le réapproprier pour en écrire une histoire. Et ouais, c'est comme ça que c'est né, quoi. Après, ça a été compliqué parce que... moi, j'ai eu un gros questionnement autour de ma légitimité à parler de ça parce que j'ai pas moi-même perdu ma mère d'un cancer. Donc c'était... OK, qui je suis pour raconter cette histoire ? Et j'avais très peur d'être à côté de la plaque. J'avais très peur de raconter quelque chose que je ne maîtrisais pas, quoi. Donc, pareil, je me suis beaucoup nourrie de lectures, de films, de tout ça. Et puis, surtout, j'ai eu des super témoignages d'amis proches qui ont bien voulu me raconter plein de choses. Et ça a aidé fortement mon récit, quoi.
Je pose peut-être la dernière question, à moins que Chloé, tu aies une question, sinon j'en ai une. Je vois que Alix... pas du tout, c'est que le temps file très vite. Non, tu parles pas trop du tout. Mais je vois qu'Alix a déjà fini. Une dernière question peut-être, parce que c'est une question que Sonia et moi, on voulait vous poser depuis le départ. Vous travaillez... je crois que vous travaillez toutes les deux en atelier, Chloé et toi. Est-ce que c'est important... Alors, du coup, ça tombe bien, vous êtes là toutes les deux à la table ronde. Est-ce que c'est important pour vous de travailler en atelier ? Et qu'est-ce que vous partagez avec vos collègues d'atelier, pardon. Qu'est-ce que ça a de différent de travailler en atelier ?
En vrai, c'est un peu comme si on avait toujours travaillé en atelier avec Chloé, vu qu'on était à l'école, on avait nos bureaux à côté, on s'est toujours raconté nos projets en cours, on a toujours beaucoup échangé sur la construction de nos idées, nos projets et tout. Et du coup, on a quitté l'école en même temps, on s'est lancé en même temps en freelance. Et je ne sais plus s'il y avait un temps où on travaillait à la maison. Mais très vite, on a trouvé un atelier et on en a fait trois avant de...
Ouais, on a fait trois ateliers, en fait, déjà. Mais à chaque fois, on y allait en binôme, quoi. C'est vrai qu'on a toujours eu cette habitude de bosser et de se faire nos retours sur nos histoires depuis le début. Je pense qu'il y a un schéma de des réflexes et puis une confiance quoi, où tu te dis ok, son analyse et son regard sur ce que je produis, ça va forcément m'aider à rebondir parce que elle me connaît, mais elle sait aussi être tenir un propos neutre et juste professionnel comme un éditeur ou comme une éditrice du coup. Et du coup ouais, moi je sais que son regard sur mon travail, c'est quelque chose dont j'ai besoin maintenant. Et ça serait super. Je pense que ça serait un manque difficile à combler parce que, enfin, t'es obligé de rencontrer des gens en qui t'as confiance pour confier un projet qui est en construction en plus. Le truc, il est en pleine maturation. C'est pas forcément simple d'en parler. Tu peux pas le montrer à n'importe qui en fait. Et du coup, d'être en atelier, ça nous permet de garder le contact facile. Et pratique, mais moi personnellement, je crois que je pourrais plus bosser chez moi parce qu'en fait, en atelier, il y a de la vie, quoi. Il y a des gens qui bougent, qui vivent, qui viennent bosser aussi. Et même si parfois c'est chiant parce qu'ils font du bruit et qu'ils parlent et qu'ils sortent leur téléphone et que machin.
La vie en communauté, quoi.
Voilà. Au final, je préfère ça que d'être à mon bureau toute la journée toute seule. À lutter pour pas aller ouvrir le placard pour manger un gâteau. Donc
oui, merci. Vas-y, je t'en prie.
Ça met un cadre aussi en mode ça sépare la vie privée et le travail parce qu'on a un travail très. En fait, on y pense tout le temps quoi, même si. Enfin, on rentre chez soi, notre histoire elle continue de s'écrire et tout et.
En plus. On fait genre qu'on essaye de séparer les espaces, mais en fait.
Ça marche pas tant que ça.
Non. Ouais, ça aide. Ça aide.
Enfin, ça aide, mais bon. Ça ne nous empêche pas d'y penser à 24. Hein.
Ouais. Merci à toutes les deux et merci Lucie. Du coup, je vous propose de prendre la place de Chloé à mes côtés, mais en fait, je ne te propose rien du tout, tu es déjà à mes côtés. Par contre, je vais envoyer Chloé à la table à dessin si tu veux bien et Alix qui nous rejoint. Parfait. Le ballet savamment étudié. Donc, pour cette deuxième partie de table ronde, c'est Lucie et moi qui allons interroger Alix pendant que Chloé va dessiner après Alix. Donc, Alix, tu as publié Ne m'oublie pas, ta toute première bande dessinée aux éditions du Lombard. Alors, ça va être un peu la même question que posée précédemment à Lucie. Est-ce que la BD, c'est une vocation depuis l'enfance? Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de lire ce qu'a dit Sonia en disant que ce sont mes propos. J'ai lu que lorsque tu avais 5 ans... Donc, Sonia a lu que lorsque tu avais 5 ans, une amie de ta mère t'a dessiné un gaufrier de 6 cases. Donc, un gaufrier, si vous... tu vas peut-être expliquer ce que c'est qu'un gaufrier. Tu expliqueras certainement mieux que moi. Donc, sur une feuille, t'as dessiné un gaufrier et t'as dit que tu pouvais raconter une histoire avec ça. Est-ce que c'était ça, la révélation?
Je vois que Sonia est très bien renseignée
Sonia
sur ma vie.
Très bien renseignée.
Parce que oui, c'est absolument ça. Donc, le gaufrier, c'est la forme la plus essentielle de bande dessinée. C'est vraiment 6 cases, 6 carrés de la même taille dans laquelle on découpe une action en 6 étapes, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, cette amie de ma mère là, une fois de passage à la maison, en voyant que je dessinais vraiment frénétiquement, m'a dit « Mais tu sais... tous ces dessins, tu peux aussi les mettre au service d'une histoire. Tu peux raconter une histoire avec ces dessins. » Et à ce moment-là, ça a vraiment été une révélation. Parce que dessiner, ça me plaisait, mais il y avait une sorte de pas assez que j'ai trouvé dans le fait de raconter des histoires et de mettre au service le fait de savoir dessiner. Parce que voilà, je dessinais quand même bien pour un enfant, quoi. Et ça a vraiment donné du sens à ce plaisir que j'avais. Et j'ai juré que j'arrêterais jamais. Et voilà, et ça a fini par marcher.
Et c'est ce que tu as fait, du coup.
Voilà.
Qu'est-ce que ça permet, selon toi, la bande dessinée, le format bande dessinée? Enfin, le format, je ne sais pas, mais en tout cas, la bande dessinée, disons.
Ben, en fait, je pense que la bande dessinée, c'est un médium très jeune qui, pour l'instant, est extrêmement libre parce qu'il échappe à n'importe quelle forme d'académisme qui peut parfois étouffer plein de formes artistiques, disons, plus beaux-arts ou plus anciennes. La bande dessinée a ce côté très pop culture qui appartient uniquement aux autoristes, qui est encore très peu théorisée ou alors de manière assez bienveillante. Et en fait, ça offre une liberté qui est juste dingue. Et c'est un médium qui se réinvente à chaque fois qu'un auteur ou une autrice publie un nouvel album. Et je trouve ça absolument fantastique, en fait. On a carte blanche, vous prenez vos papiers, vos crayons, vos mains, vos idées et vous faites ce que vous voulez avec. Qu'il y ait des cases, qu'il y ait de la couleur, qu'il n'y en ait pas. Et voilà, et ça, c'est vraiment génial. C'est un laboratoire d'expérimentation super fluide et qui évolue très, très vite avec son temps, qui ne se laisse pas encadrer, qui ne se laisse pas contrôler. Et c'est ça qui lui confère cette modernité et qui, aujourd'hui, on le voit, touche tous les publics.
Est-ce que tu avais un blog BD ? Un Skyblog ?
Non.
Ah, super question.
Avant de publier de manière professionnelle, j'ai vraiment pas beaucoup publié mes dessins par moi-même, je veux dire via des blogs ou via Insta et tout. J'étais très, disons, confidentielle, quoi. Donc non, j'ai pas eu de blog.
La période sombre des Skyblogs n'est pas arrivée jusqu'à Alix. Du coup, tu as fait tes études de bande dessinée à Liège, je l'ai évoqué tout à l'heure. Période pendant laquelle, apparemment, tu as beaucoup lu. Et quelles sont les lectures qui t'ont particulièrement marqué ? Alors, j'ai quelques pistes au cas où tu te dises autre chose pour pouvoir te faire rebondir. Mais le mieux, c'est que tu nous dises toi.
La première que je cite, parce que ça a vraiment été une gifle énorme, c'est Blast de Manu Larsonnet. Où là, je l'ai lu quand je suis arrivée en première année à Saint-Luc, et c'est exactement la phrase que vous avez dit tantôt. C'est « Ah ouais, on peut aussi faire ça en bande dessinée, quoi. On peut aussi raconter des histoires aussi sombres, sordides, et en même temps, on a beaucoup d'empathie pour un personnage. Pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire, c'est l'histoire d'un fou, en fait. » Et donc, ça a vraiment repoussé les limites de moi, mon imagination, de ce que pouvait être la bande dessinée. Donc ça, c'est une des grosses claques. J'en parlais tantôt dans la loge avec Lucie. Il y a eu aussi L'Arabe du futur de Riyad Satouf.
Tu vois, je ne l'avais pas, celle-là.
Il y a un peu d'inédit. Où là, c'est plutôt le côté d'avoir un dessin très, très simple, très cartoon, très expressif et minimaliste, au service d'une histoire finalement très sensible, très profonde. Et moi qui à l'époque avais un dessin très cartoon parce que c'était mes lectures d'enfant, j'ai été abonnée au journal de Spirou et c'est ma première école, je me sentais complexée en fait par ce style super humoristique et j'avais l'impression qu'avec un style comme ça je pouvais pas raconter les histoires sensibles et deep auxquelles j'aspirais en bonne adolescente. Et donc ça a été vraiment un gros déclic qui m'a vraiment permis d'avancer.
Du coup, tu as fait un mix entre Manu Larsonnet et,
voilà.
Et Riyad Satouf.
Et c'est la rencontre au sommet que vous avez sous les yeux.
C'est pas mal comme rencontre au sommet. Ne m'oublie pas, c'est ta première bande dessinée. Mais du coup, ça tombe bien, tu parlais d'Insta tout à l'heure. Est-ce que c'est grâce aux réseaux sociaux que ton éditeur t'a repéré ?
Non, c'est grâce au concours Jeunes Talents de Saint-Malo que tu as évoqué tout à l'heure. Ouais. Quand j'étais en troisième année de bande dessinée, j'ai participé au concours sur le conseil de nos profs qui nous ont encouragés à le faire. Et j'ai eu le premier prix cette année-là et je suis allée au festival. Au départ, en fait, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres chez mes parents disant que je faisais partie des 15 sélectionnés. Et là, la question se posait à une semaine du festival, est-ce que j'y vais ou pas ? Ça coûte 300 balles de ticket de train. Et mes parents m'ont dit, écoute, on ne sait jamais, on te l'offre, vas-y. Et donc, je débarque toute seule comme ça à Saint-Malo. Et une fois sur le festival, quelqu'un me dit, en fait, c'est toi qui as gagné, quoi. Et là,
donc, ça valait le coup.
Ouais,
300
boules. Ça valait grave le coup. Parce que, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, ce festival. Parce que j'ai vraiment mis le pied pour la première fois à fond dans le monde de la bande dessinée. J'ai fait beaucoup de rencontres avec plein d'auteurs adorables, avec plein d'éditeurs. Et ça m'a permis de me confronter, comme je disais, moi j'ai pas trop eu ce truc de blog et tout, et donc là je confrontais vraiment à des regards professionnels mon travail, et c'est grâce à ces contacts là que j'ai entretenus par la suite que j'ai rencontré mon éditeur au Lombard.
Et justement, sur les concours, ça tombe bien, mais vous me faites toutes les transitions, c'est parfait. Et justement, je voulais te poser une question par rapport à ce concours de BD de Saint-Malo. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais aux jeunes auteurs et autrices de bande dessinée de participer à ces concours ? Bon, là, on a vu que toi, c'était en plus le Graal de gagner, mais même d'une manière générale, est-ce que tu conseilles vraiment aux jeunes auteurs et autrices de participer à ces concours ?
Oui, absolument, parce qu'en fait, il n'y a rien à perdre, quoi. Souvent c'est une, deux, trois planches à produire. Bon, c'est dans la vie d'un auteur de BD, trois planches c'est une goutte d'eau, quoi. donc ça demande vraiment pas beaucoup d'efforts. C'est l'occasion parfois de s'essayer à des styles de narration ou des styles graphiques qu'on a moins l'habitude de développer. Et vraiment, potentiellement, il y a plein de rencontres à faire. C'est bien aussi d'aller sur le festival, qu'on gagne ou pas d'ailleurs, hein, pour ensuite dire « Ah, j'ai participé au concours ». Souvent, les gens vont demander « Tiens, qu'est-ce que tu as fait ?» Ça enclenche toujours une discussion. Et je pense que ces discussions-là et le fait de faire connaissance avec ce milieu-là est, je pense, très, très important pour les aspirants auteuristes.
Est-ce que tu avais déjà dans tes planches un peu un univers qui ressemble à ce que tu fais maintenant ? Est-ce qu'il y avait un lien
Mais finalement, pour ce concours-là, Jeune Talent de Saint-Malo, oui. On voit déjà les graines qui ont germé ensuite dans Ne m'oublie pas, un style un peu réaliste, mais en même temps assez expressif. J'aimais bien dessiner l'eau. Il y avait des couleurs assez pastel, donc voilà, on voit, c'était pas encore tout à fait mature, mais il y avait plein de bonnes intentions qui ont porté leurs fruits par la suite.
Et justement, donc Ne m'oublie pas, ça raconte l'histoire de Clémence et de sa grand-mère qui souffre de la maladie d'Alzheimer. L'histoire de Clémence, donc, qui va décider d'enlever entre guillemets sa grand-mère, grand-mère qui est en EHPAD, donc, pour retrouver la maison d'enfance de la grand-mère, épisode sur lequel elle est bloquée entre guillemets, en tout cas au moment où se déroule l'histoire. Et qu'est-ce qui t'a semblé le plus compliqué dans la réalisation de cette BD ? Et Sonia disait, si tant est, quelque chose t'est semblé compliqué.
Oula, oui. Alors pour ma part, vraiment de loin le scénario. Personnellement, c'est quelque chose à laquelle j'accorde beaucoup d'importance, le scénario dans une bande dessinée. Et voilà, et c'est pas facile. C'est pas facile à écrire, de faire des choix. Enfin, j'avais plein d'intentions. Je savais ce que je voulais raconter, mais après, comment on le fait, c'est un challenge. Et j'avais énormément de doutes, de questionnements. Et donc, ça a été de loin le travail le plus fastidieux, disons. Et une fois que ça a été fait, c'était un peu l'autoroute des vacances, quoi. Après, storyboarder, ça, c'est assez instinctif. Et alors, dessiner, là, c'est les vacances, quoi. Tu mets un podcast dans les oreilles et tu dessines toute la journée. C'est super relaxant, c'est très agréable. Donc, oui, le scénario. Et c'est marrant, ça se reproduit, là, pour mon prochain album. Pareil, c'est vraiment une étape sur laquelle je me suis bien, bien cassé les dents et je ne suis pas encore arrivée au bout, d'ailleurs.
Mais c'est important, il faut prendre le temps, je pense, pour avoir le tour du plaisir après.
Oui, parce que voilà, en fait, je pense qu'il faut être sûr de soi, de son scénario, parce qu'après, t'auras beau faire les meilleurs dessins du monde, les meilleures couleurs et tout, ça rattrapera pas certaines faiblesses narratives, quoi. Donc, et comme la bande dessinée, ça doit être l'alchimie entre les deux, bah voilà.
Mais c'est marrant que tu parles, enfin que tu dises que pas que le scénario est le plus dur, mais tu inclus le storyboard dans ensuite l'autoroute du plaisir. Alors que j'avais l'impression, mais peut-être que je me trompe, hein, à entendre les auteurs autoristes de manière générale, que l'étape du storyboard, c'était pas si facile que ça quand même. Parce que c'est, j'imagine, moi j'ai jamais fait bien sûr, mais j'imagine que c'est difficile d'encore réduire entre guillemets l'idée qu'on a, le scénario qu'on a pour que ça marche, en disant bon, bah voilà, il faut le réduire en tant de cases, en tant de scènes plutôt, en tant de. Mais toi, t'as l'air de dire que ça fait partie du plaisir en fait, le storyboard.
Ouais, et d'ailleurs c'est très intéressant que tu utilises le mot réduire parce que pour moi c'est vraiment tout l'inverse, quoi.
Ouais, qui est un vilain mot, hein, je conviens.
Mais en tout cas, pour ce contexte-ci, je trouve que tu vois, Bon, moi, je suis pas écrivaine, quoi. Je suis autrice de BD, donc quand j'écris mon scénario, il est écrit, mais c'est pas très très bien écrit. Mais par contre, dans ma tête, je sais exactement ce que je veux, souvent en termes d'image. Et ce moment où je vais transposer mes phrases en planche de BD, c'est là que les idées vont vraiment naître et éclore aux yeux des autres. Parce que parfois, il y a des gens, je leur fais lire mon scénario, il y a plein de trucs qu'ils comprennent pas, et je suis là, mais pourtant, c'est évident. Et après, quand on voit le storyboard, ben voilà. Donc au contraire, c'est vraiment une étape qui donne vie à ce travail laborieux de planter le scénario. Et puis paf, allez, là maintenant, on va bien mettre en scène le tout et ça va prendre si tout va bien.
Bah, moi, c'est un peu l'inverse. Enfin, j'adore écrire et j'ai du mal à m'arrêter parce que j'ai envie de me dire, OK, peut-être qu'il faut rajouter des choses ou que ça pourrait être mieux. Mais vraiment, l'étape du storyboard, c'est dur, quoi, pour moi. C'est
ah, donc je sortais pas ça dur. De nulle part. Ah, ça me rassure.
En fait, mais oui.
Je pense que chaque auteur a tellement une manière différente de procéder. Moi, j'admire aussi les auteuristes qui arrivent à faire de l'écriture automatique et à storyboarder direct, quoi. Et ils improvisent, entre guillemets, enfin, ils ont sans doute les trucs dans leur tête, mais au fur et à mesure, le storyboard, moi, j'ai absolument besoin de passer par cette étape d'écriture, c'est comme une petite nouvelle, j'ai cru comprendre que toi aussi, du coup.
Oui. Ouais, c'est comme un roman mal écrit, quoi. Mmh. Mais il y a vraiment tout détaillé. Même le suspense, je l'inclus pour que quand je fasse lire à Chloé ou à d'autres personnes, ils comprennent l'intention que tu as en tant que lecteur, quoi. Et pas que tu donnes les réponses tout de suite dans le scénario. Enfin bref, voilà. Mmh. Moi, j'avais une question pour... si je peux
Vas-y, mais bien sûr.
Parce que j'ai vu dans une interview de toi que tu disais que pour Ne m'oublie pas, tu avais du coup un rapport assez personnel au fond de ton histoire, mais pas dans la forme, qui avait un côté un peu autobiographique dans le fond, mais pas dans la forme. Et moi, c'est vraiment l'inverse pour Sylvain, où vraiment j'ai intégré des choses très personnelles dans la forme, mais pas tant dans le fond. Mmh. Et je me demandais, c'était quoi ton rapport émotionnel à cette histoire et comment tu as réussi justement à la faire sans être trop bouleversée intérieurement ou voilà.
C'est une super bonne question, parce que ça me fait parler d'un truc dont je n'ai pas souvent l'occasion de parler. Mais donc c'est clair qu'en fait, Ne m'oublie pas, ça a été très très cathartique pour moi parce que ma grand-mère avait la maladie d'Alzheimer et j'en ai beaucoup souffert. Et en fait, au moment de faire cette histoire, de l'inclure dans une fiction, c'était comme me séparer de ses émotions, les mettre à distance complètement. Et elles m'appartenaient plus vraiment, elles appartenaient à cette histoire, elles appartenaient à ces personnages. Et ça, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais c'est au fur et à mesure des mois qui passaient et aussi a posteriori. En fait... Je me suis rendu compte que j'étais presque ça ne m'affectait plus la maladie de ma grand-mère. Tellement j'avais été dépossédée de mes propres émotions en les insufflant dans cet album. Et ça a un côté très thérapeutique, mais en même temps, ça me laissait une sensation très bizarre et presque une forme de culpabilité aussi. Ma grand-mère dans la vraie vie était celle de l'album et vice-versa. Et puis la frontière se floutait et... Qu'est-ce qui était de la fiction? Qu'est-ce qui était de la réalité? Enfin, c'est des questions qui ont l'air hyper galvaudées, dit comme ça, et j'ai l'impression que c'est toujours les artistes qui parlent de ça, mais là, pour le coup, j'y ai été confrontée très fort, et c'était, ça m'a laissée perplexe. Mais en même temps, je pourrais pas concevoir d'écrire un album que je ne nourris pas d'émotions qui sont sincères, quoi. Parce que sinon, je pense que les choses tombent vite à plat, et donc il faut un peu puiser dans sa propre vie, sa propre énergie, ce qu'on ressent. Mais on en est dépossédé après. On se retrouve un peu comme une coquille vide. Et d'ailleurs, ça, oui, ça fait penser au fait que je pense qu'en tant qu'artiste, il faut absolument aussi des moments de régénération où on vit de nouvelles expériences, où on se laisse aller pour réemmagasiner de nouvelles expériences qu'on pourra ensuite, éventuellement, si on le choisit ou pas, raconter, quoi.
Pour nourrir, tout simplement. Ouais. Mm-hmm. Autre sujet... qui n'a complètement rien à voir. Tu travailles par ailleurs dans une agence de communication. En quoi est-ce que ça consiste? Et est-ce que tu as le sentiment qu'au-delà peut-être d'une sécurité financière, je dis peut-être, est-ce que ce boulot-là, il a un impact sur ton travail d'autrice de BD? Est-ce que... Enfin oui, tout simplement.
Alors en quoi ce travail consiste? Je suis illustratrice donc dans une agence qui produit principalement du contenu vidéo pour toutes sortes d'entreprises, privées, publiques, beaucoup d'ONG, beaucoup d'agences autour de l'Union européenne puisqu'on est basé à Bruxelles. Et moi, mon job consiste à storyboarder ces vidéos, les dessiner, faire un peu de direction artistique. Et c'est très très intéressant parce que c'est souvent des vidéos courtes qui ne sont faites qu'en dessin et qui doivent expliquer des sujets... soit trop complexe, soit trop ennuyeux. Et donc le dessin est là pour donner un coup de boost à tout ça et rendre les choses fluides et intéressantes à regarder et avec de l'émotion. Et donc c'est chouette parce que chaque vidéo de 3 minutes est un mini challenge et il faut toujours trouver des solutions. Et donc c'est très très stimulant intellectuellement. Et ça, je trouve ça assez chouette. Graphiquement, j'ai l'occasion d'explorer plein de styles parce que je ne vais jamais rester très longtemps sur une vidéo, donc je peux me permettre d'aller très loin hors de ma zone de confort parce que je ne vais pas devoir dérouler 200 pages de BD là-dessus. Et donc, c'est très stimulant. Et évidemment, l'un nourrit l'autre, je dirais. Il n'y en a pas un qui nourrit plus l'autre. Mon travail d'autrice sur la narration, le storyboard, le découpage nourrit très très fort ce truc de vidéo. Et toutes mes expérimentations graphiques et ce que j'apprends sur des sujets auxquels je m'intéresserais pas de base, bah c'est toujours intéressant. Donc c'est chouette. Et évidemment, je vais pas le cacher, ça apporte une stabilité financière qui me permet de me consacrer à la BD super sereinement et de pouvoir trier sur le volet les projets sur lesquels j'ai envie de bosser.
Et tu disais que c'était, alors ce sera peut-être la dernière question, je dis ça pour Chloé, qui est encore en train de dessiner. Tu disais que c'était super stimulant ce côté faire bosser pour des vidéos de 3 minutes où tu sais que tu ne vas pas pouvoir dérouler 200 planches de BD. Cet aspect de la contrainte, c'est quelque chose que tu aimes bien dans l'exercice de ton dessin ou...
Oui, en fait, j'adore la contrainte. J'adore, oui, parce que c'est facile en fait de trouver. Enfin, ma créativité fonctionne beaucoup, sur trouver des solutions, rebondir. Comment est-ce qu'on va détourner le sujet, comment est-ce qu'on va s'approprier la contrainte. Et finalement, quand je me retrouve face à une feuille blanche comme tantôt, c'est drôlement plus périlleux pour moi.
Merci Alix.
Merci à toutes les deux.
Et merci Lucie. On va maintenant récupérer Chloé, si elle est prête. Si t'es pas prête, j'ai encore une question, hein, si tu veux. C'est bon ? Eh bien, alors, tu reviens avec nous, s'il te plaît. Et puis, on va inviter Lucie à la table à dessin. Alors, Chloé, jamais 203, hein, même question. La bande dessinée, une évidence ? Point d'interrogation ?
Bien sûr. Comment dire ? Le dessin, une évidence ? La BD, pas tout de suite.
Mais... Bah, c'est ça qui va nous intéresser, je pense. Sonia avait noté en petite note que dès le collège, tu suivais des cours de BD. Mais je pense que plus globalement, on l'a entendu avec Alix, avec Lucie. Peut-être que le dessin a été une évidence. Mais à quel moment, ou peut-être pas, tu vas nous dire, mais à quel moment tu t'es dit, vraiment, la BD, c'est ce qui va me permettre de... De raconter vraiment comme je veux le raconter, ça va me permettre de dire ce que je veux dire, ou peut-être ça s'est pas du tout fait comme ça. Hein.
Non, je crois que je me le suis pas dit vraiment parce que j'avais 13 ans et du coup, je dessinais des histoires sous format bande dessinée qui ressemblaient plus à des mangas parce que c'était ce que je lisais et c'était même dans le sens de lecture japonais. En fin de compte, personne d'autre que moi ne les lisait, sauf peut-être 2-3 copines à qui je faisais passer les trucs parce que c'était nos histoires à nous du collège, donc c'était pas très intéressant en fait. D'ailleurs, c'est un peu les premières claques que tu te prends quand tu te rends compte que tes amis, elles en ont rien à faire de ce que t'as dessiné alors que tu racontes leur vie, mais c'est marrant. Et du coup, je dessinais, c'était hyper naturel à ce moment-là. Et après, le côté pro, c'est arrivé vraiment, vraiment bien plus tard, quoi, parce que j'ai mis du temps à me projeter professionnel vraiment là-dedans, quoi.
À te dire que tu pouvais en faire vraiment ton activité quotidienne, ton métier, ton...
Ouais. Bah ouais, parce que c'est pas identifié comme un métier périn, enfin... J'avais pas trop de connaissances autour de moi qui pouvaient vraiment, je sais pas, me raconter un peu leur expérience. Les auteurs de BD que j'avais rencontrés... Un auteur de BD, pour le coup, que j'avais rencontré à la médiathèque de ma ville et à qui j'avais posé des questions très simples du style « Quelle école vous avez fait ? Comment vous en êtes arrivé là ? Est-ce que vous vivez de ça aujourd'hui ?» J'avais 15-16 ans à l'époque. Et en fait, il était incapable de me répondre. Genre vraiment, ah ouais. Il est resté presque, je sais pas... je sais pas s'il était gêné ou quoi, mais sur le coup, ça m'a vachement... j'ai trouvé ça violent parce que je me suis dit, ok, donc il n'y a pas d'accès. La personne est fermée devant moi, elle ne m'explique pas comment c'est possible. Du coup, ça a été une porte qui est restée fermée, quoi, du coup.
Mais c'est une super anecdote que tu racontes, parce que nous, on en fait des rencontres BD avec des classes dans la bibliothèque. Et c'est une question qui revient tout le temps de combien vous êtes payé, quelles études vous avez faites, quel bac vous avez fait. Et en fait, j'ai l'impression, en tout cas, dans les jeunes auteurs et autrices qu'on fait venir, il y a vraiment une générosité à chaque fois, justement, de transmettre ça, ces informations. Est-ce que c'est important pour toi ? Puis du coup, Alix, tu peux aussi répondre, mais est-ce que c'est important pour toi justement cette transmission, peut-être justement à cause de ce que tu as vécu
Ouais, possible. Je crois que j'ai pas oublié du coup les réponses que j'attendais et les choses qui m'auraient peut-être aidé à me projeter un peu plus. Aujourd'hui en rencontre avec des jeunes, je suis très, très transparente sur comment j'organise mes journées, comment je gère mon argent, comment je fais pour gagner de l'argent, pour aller chercher de l'argent aussi. Ouais, c'est... Parce qu'en fait, on dit, ouais, les jeunes, ils pensent qu'à l'argent et tout. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça et tout. Mais en vrai, moi, quand j'avais 15, 16 ans, je me disais aussi comment je vais gagner ma vie. Parce que c'est là où tu commences tes premiers petits jobs aussi. Voilà, moi, je bossais tout sur les marchés pour me payer un scout et tout. Et je me disais, mais je ne vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Il va falloir que j'ai un truc, un salaire normal, quoi. Parce que c'est chiant de bosser le week-end. Enfin bref, c'est des questions que tu te poses et qui sont fondamentales en fait et qui te, je pense, qui te rassurent aussi et ça te permet ouais de t'imaginer adulte un peu.
Ben j'ai eu du bol de tomber sur des auteurs et des autrices chaque fois hyper généreux comme tu disais qui prenaient plaisir à répondre aux questions, qui étaient super bienveillants donc j'ai eu du bol.
Et alors, on va parler peut-être de ta toute première bande dessinée, Conduite interdite, publiée chez Steinkiss en 2017. C'était ton projet de fin d'études.
Ouais.
Et comment est-ce que tu en as eu l'idée et comment ce projet s'est retrouvé entre les mains d'un éditeur? On a un peu aussi évoqué cette question avec Lucie tout à l'heure, mais tu as peut-être une histoire complètement différente.
C'est-à-dire qu'en fait c'était mon projet de diplôme, donc c'était le diplôme qu'on a fait juste avant la FCND, donc la formation complémentaire en BD. Et donc là, pour le coup, le projet il est vraiment fini, c'est vraiment un livre quoi, qu'on fabrique le livre, c'est vraiment trop chouette d'aller au bout du processus éditorial quoi, donc le scénario, le dessin, l'impression, la reliure. J'ai même pu sérigraphier ma couverture sur un tissu. Enfin, vraiment, tu fabriques le livre de A à Z, quoi. Et c'est vrai qu'une fois l'oral passé, le diplôme fini, tu te retrouves avec cet objet et tu te dis, ok, ben, qu'est-ce que je vais en faire maintenant ? Et donc c'est à ce moment-là que j'ai envoyé des mails, quoi, tout simplement. Et j'ai essayé d'orienter un peu sur des maisons d'édition qui me semblaient plus accessibles que d'autres, peut-être aussi plus sensibles à l'histoire que je raconte. J'ai contacté un peu avec en évidence l'association parce que j'ai été beaucoup inspirée par le travail de Marjane Satrapi. Et que l'histoire se déroulait dans une espèce de même contexte où les femmes tentent de faire valoir leurs droits, leur liberté, etc. Mais finalement, voilà, ça n'a pas eu du tout de succès. Je n'ai jamais eu de réponse. Donc j'ai eu un retour de Steinkiss à ce moment-là, qui en fin de compte, au début, c'était pas Steinkiss, c'était Varum. Donc les éditions Varum, qui étaient gérées par Vendry Leroy. Je crois qu'il s'appelle Vendry Leroy. Et en fin de compte, Vendry Leroy, donc, qui tenait les éditions Varum, avait booké tout son calendrier éditorial. Donc il était très intéressé par mon livre. Mais en fait, il n'avait plus du tout de disponibilité, quoi. Et donc, comme il était en lien étroit avec la maison d'édition Steinkiss, c'est comme ça qu'il a proposé mon projet à cette maison. Et je me suis retrouvée, à tout d'un coup signer un contrat, quoi, pour la première fois.
Donc, Alix, n'hésite pas à m'interrompre si tu as des questions. Tu as évoqué Marjane Satrapi, l'association. J'imagine que tu en as, mais quels sont éventuellement tes autres références ou les BD que tu as dévorées enfant ou que tu dévores, et ou que tu dévores encore maintenant?
Je crois que la première BD que j'ai vraiment trop, trop kiffé, c'est celle de... Manuel Feuer, 5000 km par seconde. C'est vraiment un livre que j'ai.
Je vois Alice qui hoche la tête d'approbation.
Énorme coup de cœur aussi.
Ouais, et en fait, cet auteur, il est juste incroyable, quoi. Il est trop fort. Il y a la manière dont il construit le personnage, ce qu'il nous laisse avoir du personnage et ce qu'on devine de ce personnage-là, mais qu'il ne nous montre pas. Les plans, les cadrages, c'est assez cinématographique et je crois que ça me parle beaucoup. Et puis voilà, il est dans des histoires de vie. Comme on disait au début avec Lucie, c'est aussi ce genre d'histoire qui me plaît. Et j'aime bien imaginer des trajectoires de personnages, savoir un peu quels sont leurs dilemmes et comment ils dealent avec ça et qu'est-ce qui leur arrive à la fin. J'ai pas encore fait de récit qui traverse les années parce que dans 5000 km par seconde, c'est quand même un sacré bout de vie, quoi, de tous ces personnages. Mais et je trouve ça d'ailleurs hyper, comment dire, c'est hyper impressionnant en fait d'être capable d'écrire des persos aussi, enfin d'écrire la vie d'un personnage en fait. Pour l'instant, moi, je m'arrête à voilà un an maximum quand je c'est mon unité de temps pour l'instant. Mais voilà.
Tu parlais de cinéma, ça t'inspire beaucoup dans ta pratique de la BD ?
Oui, ouais, je pense que bah, avant de lire, je regardais la télé, donc je crois que j'ai gardé cette sensibilité-là, ouais. Et je peux pas dessiner ou imaginer une histoire sans avoir une musique en tête aussi. Donc il y a tout un tas d'éléments du film qui me stimule pour écrire et imaginer un univers, une histoire. Ouais. Je pense que ça vient de la télé, des films, des dessins animés, beaucoup. Moi, j'ai grandi avec les Miyazaki et je pense que c'est la base de toute mon inspiration et du fait que j'ai envie de dessiner, enfin que je me suis mise à dessiner petite.
Alors, on n'a pas trop parlé technique, finalement, avec Alix et avec Lucie. Mais du coup, on avait envie de te poser une question. Ta première BD, elle était en noir et blanc. Et Saison des Roses, donc Prix du Public à Angoulême en 2020, elle a été réalisée au feutre avec des couleurs très, très fortes. Là, on voit dans ce cadavre exquis que tu es la seule à avoir prévu de dessiner avec des feutres, enfin en couleurs, en tout cas. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cette technique du feutre ?
Je sais pas. C'est le fait de. J'ai toujours des images colorées dans ma tête. Donc, comme j'essaye toujours d'être assez fidèle à ce que j'ai dans ma tête quand je dessine, c'est hyper important pour moi d'avoir cette exigence-là, même juste dans le trait. Hein, c'est. Quand il y a quelque chose que j'ai en tête que j'arrive pas à redessiner, c'est très compliqué. Donc c'est vrai que comme j'ai des images colorées et que le feutre c'est un outil super facile, t'en trouves partout. T'as pas besoin d'eau ni de pinceau ni de chiffon ni de rien. Donc en fait j'ai toujours dessiné au feutre dans des carnets, voilà pour moi et tout. Et du coup, c'est arrivé assez naturellement dans la fabrication de Saison des Roses. Alors au début, c'était vraiment juste pour poser l'univers, des ambiances, des illustrations, avec juste le perso, le stade, les couleurs et tout. Et puis bon, après, j'ai fini par comprendre que la BD, elle n'aurait pas d'autre corps que celui du feutre. Donc c'est aussi le travail de Simon Roussin qui m'a un peu rassurée. Je me suis dit, ok, en fait, on peut maîtriser le feutre et en faire un livre entier avec. Mais ouais, c'est un truc qui m'a accompagnée depuis assez longtemps. À la base, même, c'était les surligneurs.
Ah ouais.
Ouais. Donc de base, très, très fluo.
Et en gamme colorée, les surligneurs, parce qu'il y a bon maintenant on fait des surligneurs vraiment toutes les couleurs,
c'est
mais
vrai.
Mais
à l'époque c'était un peu réduit, ouais. C'était ceux de la trousse quoi,
oui.
Jaune, rose et vert.
Et tu t'en sortais avec ça ?
Ouais. Après il y avait toujours des gens autour de moi et je finissais par leur chourer leur truc, mais ouais, je pense que ça vient de là en vrai, ce besoin de tout le temps dessiner même quand c'est pas sur la feuille appropriée. Et de faire avec les outils qu'on a sous la main, bah ça fait que ouais, le feutre, le surligneur, c'est assez cousin, quoi. Donc voilà.
Cet album Saison des Roses, il a eu un accueil critique magnifique. Comment t'as géré ça a posteriori pour te remettre au travail ? Comment tu fais avec les doutes, etc.
Ben, dur, hein. Tout à l'heure, tu disais un truc trop bien, ça m'a fait un peu réfléchir. C'était que on se nourrit de nos expériences et puis on les remet dans un personnage, dans une histoire, et du coup, on est vide. Et on se retrouve désapproprié de choses qui nous ont touchés. Et bon, du coup, moi, qu'est-ce que je vais. Voilà, qu'est-ce qui reste ? Et en fait, oui, je me rends compte que. J'ai ce réflexe de vivre des choses dans ma vie, de toujours garder dans un coin de ma tête comment je pourrais peut-être le réutiliser pour le mettre dans une scène, une action, quelque chose, quoi. Et, Et c'est un peu vertigineux parce que ben, ça voudrait dire de vivre sa vie pour en faire des livres. Et donc c'est étrange. Enfin, c'est à chaud là ce que je dis. Hein, donc c'est vraiment pas du tout dit avec du recul et de la réflexion. Mais à la base, ouais, de rebondir après Saison des Roses, c'était pas évident. Donc bon, Steinkiss m'a passé une commande de livres avec un orchestre classique. Du coup, j'avais la contrainte, quoi. Donc une contrainte de thématique. Donc la musique classique racontait la préparation d'un gros spectacle. En plus, pour moi, c'était pas forcément évident parce que la musique classique, j'y connais pas grand chose. Et en fait, ouais, c'est un milieu qui est assez aussi. C'est un petit milieu, quoi. Mais un peu comme la BD, quoi. Il faut vraiment rentrer dedans par la petite porte pour voir quelles sont les petites choses, quoi, tout ça. Et donc, ça m'a un peu, comment dire, posé. Je me suis affairée à faire ça. C'était assez dur parce que, c'était un projet de commande et c'est la première fois que je faisais un livre sur commande. Et du coup, comment tu t'appropries aussi la demande de quelqu'un, donc ça vient pas de toi, donc il faut quand même y trouver un peu un lien avec mon travail. Je venais de faire une BD sur le foot en couleur et puis là, il faut que je fasse une BD sur la musique classique et j'ai 9 mois. voilà. Ouais, ça a été long, dur, mais.
Et justement, il y a une question, quand j'ai lu Saison des Roses à l'époque, elle me taraudait, c'est toi, tu t'as fait du foot dans un club féminin ou c'est quoi ton rapport par rapport à la fiction dans ce livre?
Ouais, ça m'a réconciliée avec la pratique du foot, quoi. En fait, mon histoire avec le foot, elle est un peu avortée, on va dire, très tôt. J'ai jamais joué en club étant ado. Et finalement, ça m'a permis de me concentrer et de rentrer dans l'univers du dessin et dans l'imaginaire qui m'a vraiment portée adolescente, quoi. Mais c'est vrai que je jouais beaucoup quand j'étais à l'école primaire. On était une belle bande et c'était assez dynamique. Et je pense que je suis, assez chanceuse sur la période à l'école primaire, parce que j'ai pas beaucoup de copines autour de moi qui ont ces mêmes souvenirs de jeux et de joie dans la cour, quoi, où moi je me sentais tout aussi libre de courir dans l'espace de la cour de récré avec les garçons, quoi. Et c'est vrai qu'arrivé au collège, terminé, quoi. Les garçons, ils peuvent continuer à jouer, mais toi, tu vas apprendre à t'habiller et à te mettre de l'eyeliner, quoi. Et du coup, ben, terminé le sport, le foot, le jeu, les complexes du corps qui arrivent. Hein, tout d'un coup, tu deviens une adolescente beaucoup plus. Tu rentres dans une espèce de féminité oppressante. Bref. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. J'étais à ça.
Le collège, le foot. Le rapport au corps.
Le fait que c'était un peu avorté, le foot.
Ah oui, voilà. Donc du coup, je m'inscris pas en club, ouais. Je reste une supportrice fervente du PSG, parce que voilà, en famille, c'est une culture. Je laisse la pratique du foot de côté jusqu'à ce que Saison des Roses, ce projet arrive, et dans lequel, en fin de compte, j'ai pu me réconcilier avec le foot. Et c'est grâce à Barbara, à ce personnage-là, à son histoire, que je me suis sentie tout d'un coup légitime d'aller sur le terrain, quoi. Donc voilà, c'est la BD qui m'a ramenée au foot, en fait, au jeu.
Merci Chloé. Le temps file à une vitesse. J'avais encore des milliers de questions de moi, de Sonia, pour vous trois. Mais il va falloir qu'on conclue la partie table ronde, en tout cas. Lucie, est-ce que tu veux que je te laisse une minute encore ou ça va?
C'est trop beau.
Merci beaucoup à toutes les trois pour d'avoir répondu avec beaucoup de sincérité à mes questions, celles de Sonia, et puis à vous en être posées entre vous, c'était top. Avant qu'on se quitte, ou en tout cas avant qu'on passe aux questions-réponses, Sonia souhaitait que chacune d'entre vous puisse parler un peu de ses projets en cours et à venir. On va commencer par Chloé. Du coup, normalement, on va pouvoir voir quelques planches de Saison des Roses. Donc, on en a parlé, BD qui mettait en scène une équipe de foot féminin. Était en plein dans la réalisation d'un nouvel album chez FLBLB, tu en parlais à l'instant. Excuse-moi, je prononce mal. Je ne sais jamais s'il faut dire FLBLB ou justement Flubble.
Comme on est en direct et qu'ils nous regardent.
Tu fais très bien, Flubble. Non, mais tu fais très bien. On va pouvoir voir quelques pages du découpage de ton nouveau projet. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui. Alors, donc avec Flubble, on a décidé de travailler à nouveau ensemble parce qu'on avait vraiment trop aimé quoi, échanger pour saison, pour fabriquer tout ça, enfin, c'était trop chouette comme rencontre éditoriale. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'étais avec un éditeur qui était autant à l'écoute, très réceptif à ce que je voulais raconter. Enfin, donc voilà, on a eu envie de continuer. Et donc, en fait, mon projet avec eux, c'est une espèce de partie 2 quoi, de Saison des Roses. Donc, par contre, ça s'appelle Rosinizou. Pour l'instant, hein, ça s'appelle Rosinizou. J'ai appris avec l'expérience de pas trop m'attacher au titre parce que ça peut changer à tout moment. Même si celui-là, je sens quand même qu'il n'y a pas d'autres titres possibles, mais bon. Et donc, en gros, je suis plus vraiment sur le foot, mais par contre, je suis dans la ville, quoi. Donc, j'avais envie d'explorer un peu plus quels étaient les différents acteurs de cette ville, que ce soit le milieu associatif, le milieu étudiant, le milieu hip-hop un peu alternatif. Enfin, voilà, il y a plein de personnages qui me travaillaient dans ma tête. Il y a 4 personnages principaux, 4 jeunes qui ont 25 ans, en fait. En tout cas, ils ont quelques années de plus que Barbara et ses potes. Et ils sont dans d'autres trajectoires et d'autres questionnements, à savoir que là, il faut qu'ils prennent des décisions pour leur vie. Et en fin de compte, leur parcours de vie, ça me perturbe trop de voir les planches et de parler en même temps. C'est horrible, je suis désolée. Je pitch trop mal mon projet.
Mais pas du tout, mais tu pitches très bien ce projet.
Mais en gros, voilà, l'idée, c'était de raconter comment des jeunes de 25 ans, de banlieue parisienne, qui sont différents, mais qui ont grandi ensemble, comment est-ce que la ville les a façonnés, et comment est-ce que cette ville, qui est constamment en train d'être transformée de partout, que ce soit par les travaux, que ce soit par les différentes restructurations qui arrivent, comment tu peux... avoir des souvenirs passés dans une école et puis repasser 3 mois plus tard, enfin 10 ans plus tard, et voir que cette école a disparu. Donc voilà, comment tu gères ce parcours-là et donc la ville qui est en train de complètement se transformer et qui va être aussi le déclencheur pour chacun des personnages la fin d'un cycle, et donc comment ils se disent adieu et comment comment tu dis adieu aussi à la bande et quels sont les sacrifices que tu fais parce que voilà, il y a d'autres opportunités qui arrivent. C'est hyper mal raconté. Hein.
Non, pas
hyper
du tout.
Mal. J'ai fait des pitchs, mais bien meilleurs. Hein. Je suis vraiment navrée.
On te croit, mais je trouve pas du tout mais que ton pitch soit mauvais. Moi, j'ai tout à fait compris ce que tu voulais dire.
Non, je suis pas... Ouais.
Il y a les planches pour donner envie, donc mm-hmm. Ça va.
Non, mais en plus, je comprends non, tout à fait. Ouais. Peut-être aussi parce que j'ai lu Saison des Roses, mais oui, le côté rapport à la ville, enfin, moi, je vois tout à fait où tu voulais en venir, en tout cas. Merci, Chloé. Alix, on va voir sur l'écran quelques planches de Ne m'oublie pas, puisque pour l'instant, on n'a pas encore montré de planches. Je l'ai dit tout à l'heure, une BD pour laquelle tu as reçu de nombreux prix, et c'était marrant que ce soit toi qui poses la question à Chloé, justement, de comment on fait pour ne pas se mettre une pression quand... Enfin, où est-ce qu'on se met une pression quand on a eu un premier album qui a plu à ce point? Et du coup, bah, je te retourne la question. toi aussi, est-ce que tu es lancée dans un nouveau projet actuellement et comment tu fais est-ce que tu te mets une pression particulière?
Mais je posais la question à Chloé parce que je cherche des aides et des réponses. Oui, je n'ai pas caché que ça a pas été facile. Enfin, je veux dire, pardon, c'est un merveilleux cadeau que l'album ait marché. C'était mon tout premier. Enfin, juste waouh, quoi. C'est pas du. Enfin, bon, voilà, c'est un revers de la médaille qui en vaut quand même vachement la peine. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur. J'ai un petit peu l'impression que les gens vont m'attendre au tournant. Et de moi à moi, surtout, je me mets beaucoup de pression. Parce qu'en fait, je suis un peu la seule à faire ça. Hein. Mais bref. Donc. Mais finalement, en fait, l'histoire de mon prochain album, elle m'habitait depuis très longtemps. C'est inspiré d'un fait divers que j'avais entendu dans un podcast où le vrai fait divers, c'est dans les années 60, un père divorcé qui n'avait pas la garde de ses enfants décide en fait de les prendre en otage et de les retenir dans sa maison pour revendiquer le retour de sa femme. Et il va s'en suivre un siège de près de 15 jours où la gendarmerie fait le pied de guerre autour de sa maison pour essayer qu'il libère ses enfants et lui qui refuse catégoriquement. Et donc cette histoire, quand je l'avais entendue, m'avait beaucoup interpellée. Je me suis dit, il y a quelque chose à raconter. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Qu'est-ce que ça fait aux enfants d'être pris en étau comme ça? Et c'est quoi d'être l'enfant d'un père instable psychologiquement comme ça, quoi? Et quelles conséquences ça a sur ta vie d'enfant? Donc en fait, l'histoire est racontée du point de vue de la fille qui a une dizaine d'années. Et voilà, et le thème, c'est la transmission de schémas de violence de génération en génération. Donc voilà, dit comme ça, c'est hyper engageant. Et bon, c'est très ambitieux. J'ai fini d'écrire le scénario, ça a pris des mois, plusieurs sessions de réécriture. Là, je viens de finir hier le découpage.
Et donc maintenant, t'es sur l'autoroute du plaisir, normalement.
Elle n'est pas encore arrivée.
Oui, parce que tu partages beaucoup ton travail sur, enfin en tout cas ton travail, ton quotidien sur Instagram notamment. Et je crois avoir vu qu'effectivement parfois tu parles aussi de ta difficulté avec cet album. J'ai l'impression, hein, je me trompe peut-être.
Oui, mais... non, c'est très dur, c'est très très dur. Et je veux dire, on me dit, enfin moi je garde un souvenir de Ne m'oublie pas où tout était si simple, tout a coulé de source. Et quand j'en parle avec Mathias, mon éditeur, qui a été celui de Ne m'oublie pas, il est là, non mais tu te souviens pas comme t'en as chié quoi. Et c'est un peu fou le souvenir qu'on en garde a posteriori. Mais donc, et en fait, le problème, c'est que cette fois-ci, j'ai tendance à comparer comment ça se passe maintenant versus Ne m'oublie pas, c'était la première fois, donc tout était nouveau, je faisais que m'adapter tout le temps. Là, maintenant, je suis tout le temps en train de me dire, j'ai perdu, j'ai tout perdu, ça n'ira plus jamais. C'était un énorme coup de chance. En fait, je suis une imposteuse de première catégorie. Bon, bref, voilà. Je vois que vous hochez la tête.
Oui, je vois Lucie qui se marre depuis tout à l'heure.
En fait, il y a toujours la période sur laquelle on travaille qui paraît la plus compliquée. On a l'impression que ce qui va suivre va être hyper simple et va être vraiment du plaisir. Donc quand on est dans l'écriture, on a très envie de faire le storyboard. Quand on est dans le storyboard, on a très envie de faire les planches. Et enfin, on a toujours envie d'être à l'étape d'après parce qu'on va se dire « Ah, ça va être que du fun, quoi. » Et quand on y est, c'est compliqué, c'est dur, mais... Et quand on a fini l'album, bah, on oublie en fait toutes ces phases de galère pour l'album d'avant, quoi. On oublie qu'on a passé des mois et des mois à faire ça tout le temps. Mais ouais, mais ça vaut le coup.
Ça vaut le coup. Et donc voilà, je suis là-dedans, c'est vraiment dans le découpage.
Merci Alix. Et donc Lucie, on va aussi voir quelques planches de Sylvain, mais aussi quelques extraits de pages que tu as réalisées pour le magazine Topo. Et la question c'était, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ces histoires courtes que tu réalises pour Topo?
Là c'est vrai que, ben, comme vous pouvez le voir sur les pages de Sylvain, c'était déjà une technique graphique qui m'a pris énormément de temps parce que j'ai tout fait à la peinture. Donc ça m'a pris 8 mois à faire vraiment que la peinture des planches, sans compter les retouches, les bulles, les textes et tout. Et là, je dois faire une commande du coup d'une bande dessinée d'une vingtaine de pages, 23 pages, pour le magazine Topo. Donc les contraintes sont beaucoup plus... Enfin, il y a un délai, etc. Je ne peux pas me permettre de faire des pages à la peinture, quoi. Donc il y a un peu un challenge aussi graphique où là, pour le coup, je vais devoir... travailler la couleur numérique et reprendre un style à l'encre de Chine avec des contours déjà et des contours noirs. Donc c'est un gros challenge. Ce qui est trop bien, c'est de bosser déjà pour un magazine qui fait des sujets sur l'adolescence. Je suis dans mon univers, ça va. Et là, c'est un texte que je vais adapter. Donc c'est pas encore sorti pour Topo, c'est vraiment en cours, c'est un peu... Ouais, c'est en process, quoi. Mais du coup, c'était une journaliste qui m'a fait un super article sur les filtres Instagram, TikTok, etc. Donc il y a vraiment la question de comment on se voit, de la beauté, etc., des modes et tout. Et il y a aussi une énorme contrainte de texte. Il y a beaucoup, beaucoup de texte. Et faut vraiment... C'est pas le même travail que quand t'es tout seul, en fait, où tu peux te dire, OK, ça, j'enlève. Là, je vais faire 10 pages de plus parce que le texte rentre pas. Là, en fait, on m'a dit, il y a 23 pages, c'est comme ça. Donc, faut rentrer le texte, faut trouver des astuces. Et faut en même temps avoir une espèce de fil rouge, en fait, avec... moi, j'ai utilisé un ou deux personnages récurrents qui viennent illustrer un petit peu l'histoire et le texte qu'on m'a donné, parce qu'au final, le texte est assez informatif. Donc, pour rendre ça un peu plus, ludique ou comme si c'était une histoire vraiment qu'on suivait, il y a une double histoire à raconter. Donc, moi, j'adore ce challenge. Et c'est vrai que là, j'ai un peu enchaîné les travaux de commande où d'autres personnes écrivent et j'illustre ça. Et j'ai très envie aussi de réécrire mon prochain projet de BD. Pour l'instant, c'est en maturation. Je ne suis pas encore au découpage ni sur l'autoroute. Mais en tout cas, ça nourrit plein de choses et j'apprends plein de choses en plus en faisant des travaux de commande là sur Topo, le VTubing par exemple, je ne savais pas ce que c'était. Et si vous savez pas non plus, et ben lisez le Topo. Numéro.
Merci Lucie, merci beaucoup à toutes les trois. On va conclure, si c'est possible, en regardant quand même le superbe dessin que vous nous avez fait toutes les trois, parce que finalement on n'est pas trop revenu dessus avec cette lectrice, je crois. J'ai jeté un œil, on a le retour avec cette lectrice.
Future autrice.
Ouais, future autrice de BD et donc qui collait pas mal au thème de la soirée. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu en tout cas et du dessin. Voilà, merci beaucoup à la régie. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu et du dessin et des questions-réponses. C'était vraiment super, trop court en tout cas pour moi. J'espère que dans la salle aussi vous avez trouvé ça trop court. Mais du coup, vous avez une chance de vous rattraper parce que maintenant ce sont les questions-réponses. On a un petit peu de temps avant de rendre la salle, donc n'hésitez pas. Il y a certainement beaucoup de questions qu'on n'a pas abordées, donc n'hésitez pas à les poser maintenant.
Et c'est moi qui fais passer le micro.
Merci. Alors, en fait, je suis venue vous voir parce que je suis en FCND aussi à Renoir. C'est Michel qui m'envoie. Enfin, bref, voilà.
Bah, le bonjour à Michel.
Et j'avais une question pour toi, Alex, parce que du coup, j'ai fini mon projet d'FCND et en ce moment, je fais un stage en tant que graphiste dans une boîte aussi... C'est un magazine, mais voilà. Et je me demandais comment est-ce que tu fais pour gérer ton énergie et ton temps. Parce que j'ai commencé le stage en même temps que je finissais mon projet et j'ai eu un petit peu de mal à tout gérer entre mon compte Instagram que j'essaye de faire grandir et le projet et la vie de salarié.
Très bonne question. Je comprends, c'est vraiment pas facile. Ça demande énormément d'énergie, comme tu le disais. Donc j'ai fait Ne m'oublie pas, je travaillais à temps plein dans cette agence et je réalisais l'album vraiment le soir et le week-end. Ça demande énormément d'exigence en fait avec soi-même, de s'astreindre à des horaires qui sont très lourds. Et donc pour te dire, je faisais 9-18 à Cartoon Base et puis 20-23 tous les soirs sur Ne m'oublie pas et tous les week-ends, travailler au moins 6 heures par jour, samedi plus dimanche. Je n'avais plus de vie.
Ça fait envie.
Je n'avais plus de vie. Je n'avais pas de vie sociale. Voilà, le reste du temps, je dormais, en fait. Donc, voilà. Mais si c'est vraiment ce que tu veux faire, c'est à nouveau, c'est hyper cliché, mais voilà, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Et il faut savoir pourquoi on le fait et essayer de quand même y prendre du plaisir, parce que finalement, c'est vrai que le risque, en fait, c'est que ça devienne tellement une contrainte et un truc d'horaire et tout, que ça perd de son sens et tu sais même plus très bien pourquoi tu le fais. il faut essayer de se souvenir, ok, de quoi je rêve en fait. Et parfois prendre un pas de recul et se dire, en fait, ce moment où à 20h j'éteins mon ordi et juste je me mets face à ma planche et je dessine en écoutant de la musique et tout, c'est quand même super chouette. C'est vraiment un plaisir aussi. Et c'est pas juste, hein, il est 20h, je dois couper ma série. Voilà. Mais tu vas passer, c'est normal, par des phases de profond désespoir et d'épuisement physique. Mais courage.
Mais je pense qu'il faut le voir comme une chance aussi d'avoir une contrainte à côté, parce que si tu as vraiment tout ton temps pour bosser sur ton projet, ben, des fois, justement, tu prends des pauses pour regarder des séries, machin et tout, alors que là, tu as vraiment envie de le faire. Donc, tous les moments que tu vas trouver, ça va être des moments que tu vas t'approprier ou ça va être ton moment pour ta BD, ton projet. Et... voilà. Mais tu seras fatigué.
D'autres questions?
Bonsoir. Moi, petite question technique, vous en avez parlé un moment, mais super rapidement. Et je m'interroge beaucoup sur la façon dont vous travaillez. Est-ce que vous travaillez en tradi? Est-ce que vous travaillez directement en numérique? Toutes les trois, bon, du coup, on a vu un peu au feutre, mais de manière générale, est-ce que vous avez une préférence surtout? Voilà.
Je t'en prie. Ok. Moi, j'ai une grosse préférence pour le traditionnel. Parce que déjà ça me fait mal aux yeux les écrans et qu'il n'y a pas du tout le même rapport, je trouve. J'ai un petit iPad par exemple, j'arrive pas du tout à dessiner les proportions de la même manière que quand c'est sur une feuille qui est délimitée. Il y a trop d'options, on peut trop effacer, il y a trop de zoom, j'arrive pas encore à trouver le truc alors que c'est tellement pratique, quoi. Par contre, je fais mes recherches quand je fais des illustrations en couleur, je fais mes recherches couleurs sur l'iPad, ça m'aide beaucoup quand même dans le processus. Mais les planches finales seront toujours en traditionnel. Là, en ce moment, à l'encre de Chine. Et ma BD, c'était à la peinture, quoi.
Moi, c'est tout le contraire. Je travaille qu'en numérique. Au départ, quand j'ai commencé mes études à Saint-Luc, on nous poussait beaucoup à faire du tradi. Ce que je comprends, parce que c'est vraiment une très bonne école, je pense, pour trouver son style, pour se confronter un peu. Mais je me sentais tellement... limitée, j'avais tellement peur de rater, ça m'empêchait complètement de prendre des risques, de tester des nouvelles choses, et en fait ça me bloquait. Et donc quand j'ai découvert le numérique, je me suis très très vite approprié l'outil de la tablette graphique, et ça m'a permis de tout à coup tester plein de choses, repousser les limites, me mettre un peu en danger, et j'y ai pris 10 fois plus de plaisir. Donc je garde cette technique aujourd'hui parce que ça m'amuse, ça permet de gagner beaucoup de temps. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté hyper romantique dans le traditionnel qui me manque un peu. Tu sais, on parle du bruit de la plume sur le papier et tout, et ça a l'air génial.
Mais ça a l'air génial aussi de faire en numérique, tu vois.
Oui. On veut toujours ce qu'on n'a pas, de toute façon. Mais voilà.
Moi, personnellement, le numérique, en fait, j'ai l'impression que je suis nulle au numérique. Genre que j'arrive pas à choisir les couleurs, parce qu'il y a toutes les couleurs possibles, il y a toutes les textures possibles. Enfin, en fait, il y a trop de champs des possibles au numérique. Et du coup, j'arrive pas à me satisfaire, quoi, d'un visuel. Donc, c'est vrai qu'avec le tradi, une fois que c'est tracé, quoi. Mais du coup, j'aime bien l'idée que je travaille un peu le... Enfin, genre, je réfléchis vraiment longtemps avant de dessiner, en fait. Et une fois que je dessine, je suis sûre, et le trait que je vais tracer, c'est le bon. Et plus je travaille comme ça, plus mon trait, je prends de l'assurance avec, et je le sens bien venir. Et bon, sauf pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis désolée, je suis pas dans un bon état. Mais mon avion est vraiment pas un bel avion. Mais d'habitude, je le sens le trait venir. Et voilà. Mais bon, je pense que sur la tablette, ça aurait été pareil. On est assez instable, je pense. Dans nos... Enfin, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais moi, il y a des périodes où j'ai vraiment du mal à dessiner, quoi.
Et
c'est un truc où, viscéralement, tu n'arrives pas à faire autrement. C'est horrible, mais ça ne marche pas.
Je suis là-dedans en ce moment.
Le découpage.
Mais oui. Mais en plus, le problème, c'est là, moi, au boulot, il faut que tous les jours, de 9h à 18h, je dessine bien. Il n'y a pas de... J'ai pas l'inspiration. Aujourd'hui, c'est pas ma journée. il faut que ce soit bien. Et donc, c'est pas toujours facile de concilier vie artistique, parce que je considère vraiment ça comme de l'art, même ce que je produis pour cette agence, et contraintes capitalistes, quoi. Voilà. Heureusement, je suis très solution-oriented.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, moi, j'en ai une sur la technique. Je vous laisse le temps de réfléchir. Je pose la mienne, j'en profite. Parce qu'effectivement, c'est vrai que je savais qu'il y aurait des questions sur la technique. Et je pense que Sonia aussi, c'est pour ça qu'on n'avait pas trop prévu de questions, je pense, sur ça. Parce que c'est une question qui revient tout le temps, mais qui est passionnante. Et moi, du coup, ça m'y a fait penser, notamment par rapport traditionnel numérique, mais aussi par rapport à ton utilisation du feutre. Parce que l'année dernière, on a reçu, en virtuel, du coup, parce qu'on n'avait pas encore repris nos jeudis de la BD en format... présentiel. Donc Si qui a dessiné Radium Girl entièrement au crayon et qui parlait justement du fait que c'était physiquement fatigant de crayonner. Et pour le feutre, est-ce que c'est pareil ? Et du coup, ça est pareil pour la peinture, parce que tu parlais de peinture, comment tu gères ça ? Enfin, toutes les trois, comment vous gérez ce rapport physique en fait au dessin ? Mais du coup, ça vaut aussi même pour le numérique, parce que est-ce que toi, tu trouves que c'est moins fatigant de travailler en numérique ? Par exemple, elle disait que justement, pour elle, c'était super fatigant, mais même sans parler des yeux, juste la position au-dessus de la tablette, enfin... Donc voilà, comment vous gérez, est-ce que ça a un impact sur la technique que vous utilisez, ce rapport de fatigue à la technique, quoi.
Ouais, oui, bah, je pense qu'on a chacune nos petites postures, nos petits craquages de dos. On sait un peu qu'il y a des positions que quand tu tiens trop longtemps comme ça, au bout d'un moment ça tire, ça fait mal. Donc voilà, il faut soulever un peu la planche. Physiquement, ouais, forcément, t'es crispé. En plus, enfin, je sais pas vous, mais moi, il y a beaucoup de fois où je dessine, je retiens ma respiration quand je trace un trait. C'est un truc très engageant, en fait, de dessiner en étant concentré. Donc, forcément, ton corps, il est gainé, en fait, même si bizarrement, il est assis. Mais ouais, après, il y a un côté, oui, forcément, où moi, quand je dessinais les planches pour saison, le fait de colorier et d'être à fond avec la musique et tout, t'es dans une dynamique qui porte ton dessin. Enfin, j'ai l'impression que mon dessin, il a vraiment du sens quand physiquement je suis avec lui. Donc voilà.
Il y a un truc un peu aussi où t'entres en espèce de méditation trans sans être dans l'extrême, mais quand tu fais physiquement. Enfin, ça, par exemple, j'arrive pas à le retrouver quand je fais de la colo numérique ou quand où j'ai l'impression juste de remplir et de m'ennuyer, quoi. Alors que quand c'est vraiment sur du papier, le bruit de la plume, etc., faut être vraiment concentré pour pas faire la tâche au mauvais endroit. C'est engageant mentalement et physiquement. C'est vrai que moi j'ai toujours un point du côté droit dans le dos parce que je suis droitière et du coup forcément je suis toujours crispée comme ça. Mais on essaie de faire des petits étirements. À l'atelier.
Moi, ça va. J'ai pas trop de fatigue physique, mais parce que sans doute, la tablette, tu peux zoomer, donc tu fais jamais des mouvements très amples et tout. Donc tout ça, ça va. Mais par contre, je me retrouve très bien dans ce que Chloé vient de dire. Le fait que tu t'engages quand même physiquement dans tes traits. Moi, j'aime bien avoir un trait très spontané, très fluide. Justement, pas du tout dans le contrôle, mais plutôt dans le jeter. Et c'est vrai que c'est une autre forme d'énergie et... Ouais, c'est intéressant, le rapport entre le corps et le trait.
Il y a aussi un autre truc. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres outils que la tablette. Mais Lucie, elle a aussi le pot, les pinceaux et tout ça. Et moi, j'ai les feutres. Et en fait, quand
les surligneurs.
Et les surligneurs. Et quand je m'installe pour dessiner... Tu sais, j'aime bien tout étaler. Et donc, il y a une espèce de petit rituel au début quand tu t'installes et tu dis « Ok, je veux bien pouvoir dessiner. Il faut que j'étale tous les feutres pour que je vois toutes les couleurs que j'ai. » J'aime bien ouvrir 2-3 carnets pour avoir un peu en visuel les illustrations, l'ambiance, l'univers. Et ça, c'est un espèce de rituel de préparation de la table qui est, je sais pas, super importante, quoi. Ça met aussi un truc un peu mystique ou méditatif, je sais pas, mais tu convoques un truc un peu quand tu te mets à dessiner aussi.
Ouais, ce truc de l'environnement de travail, c'est vrai, il y a toujours plein de carnets ouverts. Alors moi, c'est les post-it, j'ai des tas de post-it collés sur mon écran, dans les cahiers et tout. Et cette table tout encombrée, je sais pas, paradoxalement, c'est une sorte d'invitation, quoi.
On a le temps pour une dernière question. Ah.
À un moment, vous... Ça marche ?
Allô ?
Oui, c'est bon.
À un moment, vous parliez que la BD, c'était un super moyen d'explorer, de créer de nouvelles choses, d'explorer des choses. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez de Manu Arsenet. Effectivement, lui, à chaque fois qu'il fait un nouveau projet, il teste, il trouve un truc qui matche à son histoire. J'ai vu qu'il y en a qui essayent de nouveaux trucs avec de nouvelles technologies, genre les webtoons. J'avais vu une BD où on passait, il y avait de la musique, c'était super joli, noir et blanc, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il y avait de la musique et vous slidez, comment ? Peut-être, je ne sais pas, mais c'était très joli en fait. C'était une BD en noir et blanc, on glissait, il y avait de la musique, enfin des effets sonores plus que de la musique. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez explorer dans la BD, des trucs comme ça ?
Qui veut commencer ?
La BD numérique genre webtoon, pour le moment, moi, ça ne m'attire pas parce que je trouve que c'est pas encore suffisamment développé, disons, de manière formelle. Ça reste souvent des petites structures qui s'adressent à un certain type de public, très internet et tout. Je pense qu'il correspond pas tellement à mon lectorat et aux thèmes que j'ai envie d'explorer. Donc voilà, ça ne m'attire pas, mais je pense que ça va évoluer. Et donc la porte est grande ouverte. Enfin, je veux dire, il faut pas non plus se dire ah non, c'est pas pour moi, c'est trop manga / Asie. Je pense que ça va sûrement se développer. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une contrainte visuelle très très forte de là respecter vraiment la taille d'un écran, de slider. On peut pas jouer avec la composition des cases, la composition des planches. Et ça me manquerait, là, en l'état actuel des choses et de comment j'envisage, moi, ma narration.
Moi, c'est vrai que le webtoon, pareil, ça m'attire pas trop parce que, déjà, je suis pas cliente. Mais peut-être que... Enfin, je suis sûre qu'il y a des webtoons très, très bien qu'il faudrait que j'aille fouiner un petit peu pour voir ce qui se fait. Et en vrai, je dis pas jamais de la vie. Mais là, actuellement, c'est pas dans mes envies. Mais peut-être, ouais, à voir comment ça se développe et tout. Par contre, moi, j'ai envie d'explorer des nouvelles pistes en termes d'histoire, de ton et de genre, plutôt que dans le format pur qui serait numérique ou papier. Moi, j'aime trop le papier, la sensation du papier, du toucher, enfin bref. Et là, ouais, j'aimerais bien essayer de parler un peu d'autre chose dans mes histoires ou de créer une ambiance... différentes, peut-être un peu sombre, polar, ou un truc qui change en fait de ce que j'ai fait. Il y a un peu des challenges, je trouve, à chaque projet. On a des envies, que ce soit dans un thème ou dans une technique, on a envie d'explorer quelque chose dans un projet. Moi, je sais que je me lasse assez rapidement, je ne sais pas pour vous, mais vous me direz. Et à chaque projet, j'ai envie d'essayer un nouveau truc, de parler d'un nouveau sujet que je ne maîtrise pas forcément, d'aller chercher plus loin, quoi.
Eh ben, je crois que j'ai un tout petit peu expérimenté ça avec Beethoven sur scène. Alors, c'est pas la BD qui génère à la lecture du son, mais il y a un lien avec une playlist YouTube qui a été faite exprès à certains moments clés de la BD. Donc, tu peux écouter la musique en même temps que tu lis, mais c'est vrai que c'est deux supports différents. Parce que je pense qu'on n'avait peut-être pas, la connaissance suffisante, le temps, pour imaginer un format plus hybride avec la musique. Et je dois avouer que moi, ce que j'aime dans la BD, c'est de pouvoir juste la lire un peu n'importe où, que ça soit un objet assez... assez simple en fait, voilà, un bouquin quoi, et je crois que je suis un peu attachée à ce format. Donc en fait, la BD, moi, j'y toucherai pas, je pense. J'aime bien la planche, j'aime bien le dessin, et je crois que ça me suffit, ce format là il me suffit amplement pour m'épanouir. Mais par contre, quitte à explorer de nouveaux formats, moi je suis très très chaud pour faire un dessin animé, aller explorer des nouvelles techniques et des nouveaux formats, mais peut-être dans des genres qui sont déjà identifiés, quoi, en fait, peut-être. Déjà, je pense que ça serait un premier baptême largement suffisant, quoi, mais voilà, je sais pas, pour l'instant, voilà comment je me projette ou non, quoi.
Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous de votre attention. On peut les applaudir, oui, je pense.
Merci beaucoup. Merci, Lily.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci, je reprends la parole au nom de la Bibliothèque publique d'information. Merci à nos trois dessinatrices ce soir, trois intervenantes, Lucie Albrecht, Alix Garin et Chloé Ouari. Merci aussi à Émilie d'avoir animé au pied levé cette séance avec beaucoup de maîtrise et de fluidité. Je remercie bien sûr les collègues de la régie audiovisuelle qui ont permis que cette séance se passe dans les meilleures conditions, qu'on puisse suivre effectivement le dessin de ce cadavre exquis. Du coup, la séance était effectivement diffusée en direct sur la web télé. Du coup, elle était enregistrée. Vous pourrez la revoir prochainement sur notre replay, sur le site de la BPI. Si vous voulez d'ailleurs continuer autour de la BD, bien sûr, nos rencontres BD reprendront à la rentrée, plutôt dans les espaces de la BPI. Et bien sûr, dans un autre type de bande dessinée, n'hésitez pas à venir visiter la belle exposition consacrée au dessinateur de bande dessinée Chris Ware, dessinateur de bande dessinée américain, donc qui se passe et qui est accessible dans les espaces de la bande dessinée. Très bonne soirée à vous. Au revoir.